Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, je vous emmène en voyage. En un voyage à travers l'histoire des générations qui ont traversé le Détroit. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Aïcha Zaoui, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Aïcha?
Mais ça va, merci à vous de pouvoir me mettre justement en femme d'aujourd'hui.
Aïcha, justement, quel contact, quelle relation avez-vous avec votre prénom au quotidien?
Au quotidien, j'ai vraiment une chance et un honneur énorme d'avoir ce prénom. C'est quelque chose qui me représente totalement. Alors, Aïcha, c'est la vie, la vivante, et c'est exactement ce que je suis. Moi, je suis dans les années 80, je suis une jeune dame de 42 ans, dans pas longtemps, mais voilà, une jeune dame de 42 ans qui a toujours eu la vie en tête, le côté d'être vivant, le côté de pouvoir faire évoluer des choses, d'avancer, de casser les barrières, voilà, de se dire, OK, il y a une porte devant nous, bah, on la passe, on la casse, ou alors on passe de l'autre côté. Mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, et au-delà de ce côté, de cette définition littérale, il y a le côté lien avec mes origines, avec mon affection et mon âme pour le Maroc, et avec toute la religion qui va autour. Ça, c'est alors le prénom est aussi un prénom religieux, mais il y a aussi toute cette partie-là qui est hyper importante pour moi. Donc c'est vraiment au quotidien pour moi.
Alors quand vous dites ma relation avec le
bavarde.
Non, mais ça me va parfaitement. J'adore. Quand vous dites ma relation avec le Maroc, c'est parce que vous n'habitez pas au Maroc. Je vais y arriver.
Non, je n'habite pas au Maroc. Je suis née en France. J'ai toujours vécu en France et j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel et humain de pouvoir y travailler, de pouvoir avoir des relations avec des amis, de la famille qui est encore sur la région de Oujda, parce qu'on est originaire d'Oujda, plus précisément de Bnidar el Hassir. Et donc, c'est aussi ce lien très, très important que j'ai avec le Maroc aujourd'hui. Donc, c'est un pays que j'affectionne très, très particulièrement. C'est mon pays, au-delà d'être un pays de vacances, de voyage ou de travail. C'est mon pays, je m'y sens chez moi à chaque fois que j'y vais. C'est des amis qui sont devenus de la famille aujourd'hui. Voilà, quand on va à Marrakech, on est accueilli par sa famille. Quand on est à Casablanca, on a sa famille qui vous récupère, comme quand votre sœur vous récupère à la gare de Lille parce que vous revenez d'un déplacement, c'est la même chose.
Ouais. Alors justement, aujourd'hui, on parle de... Il y a un constat, je n'ai pas les chiffres entre les mains, mais il y a ce constat que beaucoup de votre génération décident de revenir, de s'installer dans le pays des parents et des grands-parents.
Oui. C'est vrai, j'ai beaucoup d'amis et de familles qui ont fait ce choix aussi. Moi, ce n'est pas un choix que j'ai aujourd'hui. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que mes parents sont en France, qu'ils n'ont pas aujourd'hui décidé de repartir au Maroc parce qu'ils en sont très loin aujourd'hui. Ils ont leurs petits-enfants, leurs enfants qui sont sur le territoire français. Et c'est un souhait pour eux aujourd'hui de continuer leur vie sur le territoire français. Donc, vraiment, ce lien-là aujourd'hui me tient vraiment à rester en France pour être proche d'eux.
Absolument.
Parce que les parents, je pense que ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, ni à ceux qui nous écouteront que je l'apprendrai, mais on n'en a que deux. Et il faut en prendre soin jusqu'au bout. Mes parents sont âgés de 77 et 75 ans, et du coup, alors, c'est les dernières années, comme on dit, qu'on passe avec eux très, très chaleureusement et qu'on tient particulièrement.
Absolument.
Mais c'est un souhait que j'avais émis il y a quelques années. J'avais eu des possibilités de pouvoir aller travailler justement au Maroc et le choix ne s'est pas fait. Voilà, le Mokhtoub aujourd'hui fait que je suis sur la région française.
Alors, vous avez parlé des vacances, justement, le pays des vacances, le Maroc, la région d'Oujda, la région des vacances. Ces souvenirs du nord de la France à la région d'Oujda, les voyages, les traversées, vous en gardez quelle mémoire d'enfant?
Ah, c'est rigolo quand on en parle aujourd'hui parce qu'on a moi j'ai des neveux et nièces, un paquet de neveux et nièces et ils n'ont pas vécu les mêmes vacances que nous. Pour autant, quand on leur demande où ils veulent partir en vacances, c'est au Maroc, dans la maison de Mouima et Abba. Et en fait, quand on était enfant, on avait ces vacances qui étaient géniales. Quand on était plus jeune, on ne se rendait pas compte de la merveillosité qu'on avait de pouvoir passer ces vacances. Et en vieillissant, on se rend compte qu'on a eu les plus belles vacances au monde quand on partait de Dunkerque, parce que nous, on est originaire de Dunkerque, dans le nord de la France, et qu'on traversait toute la France, qu'on traversait toute l'Espagne, qu'on traversait tout le nord du Maroc pour arriver dans notre petite ville d'Ouzza. Donc c'est des vrais souvenirs, et ça me fait penser à un illustrateur qui s'appelle Raki, qui est marocain. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je ne fais pas de la pub du tout, mais il a fait une BD qui retrace justement les souvenirs qu'il a aussi dans un petit livre, une petite BD avec des illustrations très sympas sur ce qu'il a en souvenir entre la France et le Maroc. C'est très, très sympathique.
C'est un petit peu les souvenirs communs à tous les Marocains résidents à l'étranger, ces fameuses traversées.
Ah oui, 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 oui. Aujourd'hui, on côtoie beaucoup d'amis qui sont issus de d'autres générations comme nous et qui sont marocains aussi. Et c'est des discussions avec la plupart du temps des fous rires et des larmes aux yeux parce qu'on a tous vécu la même chose. On a tous eu le passage en Espagne, on a tous eu les arrivées dans les centres commerciaux quand on revenait du coup pour ne pas oublier de faire les courses avant de reprendre l'école. Et on arrivait souvent la veille ou l'avant-veille de la reprise des cours. Et on avait tout le temps plein d'anecdotes à raconter à nos amis à l'école. Et c'est les mêmes discussions qu'on a. Et c'est des liens vraiment qu'on a avec les compatriotes, on va dire, qui vivent aujourd'hui en France comme nous et qui font maintenant des trajets en avion.
Oui, ouais, exactement.
Beaucoup plus rapide, oui.
Alors, comment on atterrit en classe quand la veille, on était encore en voiture ou l'avant-veille et qu'on était sur un autre continent, dans une autre culture 48 heures avant?
Je pense que on a. Alors, je peux pas forcément généraliser, mais je pense que c'est une généralité au plus profond de moi. On a vraiment tous, en tant que MRE, on va s'appeler comme ça. On a cette capacité d'adaptation qui est phénoménale. On arrive en fait à passer de dormir avec les cousins sur des sites d'arrêt, sur des matelas au sol, à dormir tous ensemble dans une même pièce. Et à se remettre en arrivant en France, à se mettre dans notre petite chambre individuelle, on va dire, à arriver en cours, à parler, à reparler français, parce que juste avant, on était en train de parler avec nos parents, nos grands-parents en arabe, en parlant avec Moulhanout en arabe, et on se retrouve à devoir utiliser cette langue. Donc je pense que c'est intégré en nous, cette capacité d'adaptation. Et je le vois aujourd'hui de plus en plus avec les personnes qui sont de ma génération et qui ont des emplois dans différents métiers et que je côtoie du coup dans différents cadres. C'est vraiment ce qui, je pense, ce qui nous représente, c'est de pouvoir s'adapter à toutes les situations. On peut être dans des pays complètement différents, dans des cultures complètement différentes. Malgré tout, on sera capable de s'adapter aux personnes qui seront en face de nous, aux cultures culinaires qui seront en face de nous, aux bruits de voiture. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intégré chez nous.
Alors aujourd'hui, Aïcha Zaoui, vous êtes dans quoi exactement?
Alors moi, je vais essayer de la faire courte, parce que c'est quelque chose qui est plus facile. Je suis directrice qualité, santé, sécurité, environnement. Donc je gère globalement tout ce qui est lié aux certifications, ISO, à la qualité, etc. dans une entreprise qui fabrique des instruments et des clapets de sécurité qui viennent équiper les stockages de gaz un peu partout dans le monde. Donc globalement, vous avez Total qui stocke du gaz. Dans le monde, ces stockages de gaz ont l'obligation d'avoir des appareils de mesure et de sécurité, et nous, on fabrique cela en France.
Ok, d'accord. C'est un métier d'homme, non?
Oui, j'ai fait mon parcours universitaire dans un cursus masculin. À l'époque, on appelait ça masculin. Alors maintenant, je suis assez contente que du coup, ça commence à se féminiser un peu plus.
Ouais.
Mais dans mes promotions en école d'ingénieur en maintenance industrielle, on était deux filles. Voilà. Parmi 80 personnes.
C'est ça. Alors justement,
c'est un monde complètement masculin, oui, encore.
C'est un monde complètement masculin, absolument, absolument. Alors quand on s'appelle Aïcha, est-ce qu'on arrive à facilement s'imposer dans ce monde masculin français?
Alors, vous me renvoyez 20 ans en arrière dans mon démarrage de carrière. Une petite anecdote qui m'a toujours fait sourire, parce que j'ai côtoyé ces personnes après, mais c'était pas quelque chose qui a été simple et vraiment pas simple parce que du coup je suis sortie plein de motivation de mes écoles et de mes études en me disant maintenant c'est industriel, on a des industries partout en France, partout dans le monde, ça va être super facile de trouver du travail. Bon, et ben ça a été un peu plus compliqué parce que comme vous dites, on est une femme, on s'appelle Aïcha et on est musulmane. Et les combos des trois étaient assez fatigants au début dans la recherche. Et malgré tout, bah, je pense qu'il faut faire ses preuves, hein, qu'on soit une femme ou un homme. Pour moi, on a pas de réussite sans travailler. Et on peut prouver que bah, voilà, même s'il y a tous ces a priori qui sont là, bah, on arrive à faire carrière. Et aujourd'hui, je suis assez fière de ma carrière. Je suis assez fière de pouvoir travailler parmi un monde masculin et de pouvoir aller... dans des industries qui se trouvent au bout du monde, en Corée, aux États-Unis ou autre, et de pouvoir échanger avec mes confrères qui sont la plupart du temps masculins, mais aussi féminines. Et ça le fait. Enfin, voilà, c'est possible. C'est fatigant peut-être, mais c'est possible. Et je pense que si on y arrive, les générations futures pourront avoir peut-être un peu plus de facilité. Et je pense que c'est aujourd'hui, les générations doivent justement se donner... en leitmotiv de pouvoir faciliter les choses pour celles qui vont arriver.
Alors, vous avez parlé de petits-enfants pour vos parents, vous avez parlé de nièces et neveux, mais vous n'avez pas parlé d'enfants.
Oui, alors moi, je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfants. C'est un choix que j'ai fait. Oui. Mais,
c'est un rapport un peu avec ce monde professionnel ?
J'avoue qu'il y a une partie, oui, parce qu'il faut quand même donner beaucoup de temps à l'emploi et la carrière que vous voulez. Mais au-delà de ça, on est issu d'une famille avec une maman, ma maman que je souligne très souvent et que j'appelle très souvent, qui nous a dit avec mes sœurs, alors mes frères aussi, mais qui nous a dit surtout avec mes sœurs quand on a commencé nos études. Vous faites vos études, vous formez en tant que femme, vous avez votre carrière et puis ensuite, ilabra Allah, vous ferez votre carrière de famille et vous ferez votre famille et puis vous ferez ce que Rabbi aura prévu pour vous quoi. Et puis j'ai fait,
études d'abord,
ma carrière, j'ai
travail
fait.
D'abord,
oui,
c'est ça.
C'est ça, ouais. Et je pense que c'était une chance parce que ça nous a permis d'avoir une belle ouverture d'esprit sur beaucoup de choses et de pouvoir voir des choses complètement différentes, mais mes sœurs se sont mariées plus tardivement, on va dire, que la norme, et pour autant, elles ont leurs enfants et elles sont très, très heureuses en ménage et professionnellement. Donc, voilà. On verra ce que la vie nous apportera.
C'est ça. Mais justement, aujourd'hui, elle ne vous dit pas, alors, c'est pourquoi j'en fais le hobby ?
Pas spécialement, parce que je pense qu'elle voit que je suis quand même heureuse dans ma vie. Ouais. Je n'ai pas ce manque particulier, que je suis très, très, très heureuse avec les enfants qui sont autour de moi aussi. Et je pense qu'elles se prend pas la tête pour ça ou elles s'inquiètent pas particulièrement. Je pense que oui, elle serait très heureuse, c'est sûr. Mais c'est pas une pression qu'elle met particulièrement ou des questions qu'elle se pose parce qu'elle nous voit heureux et heureuses dans nos vies.
C'est ça. En général, ces mamans qui ont tout fait pour que leurs filles, et vous l'avez dit, garçons et filles, mais surtout les filles, puissent investir dans les études, le travail, être autonome, c'est pour être justement indépendante, contrairement à peut-être un parcours de vie que la maman a eu.
Ah oui, complètement. Alors oui, ça c'est exactement ça. Moi j'ai une maman qui est très intelligente et pour autant elle n'a pas eu la chance de faire malheureusement les études ou une vie, je pense, sociale comme elle aurait souhaité, parce qu'elle a souhaité à un moment donné de prendre en considération sa famille bien plus qu'elle comme être et comme femme. Et oui, je pense qu'au-delà de vouloir en fait prendre une revanche peut-être sur leur vie, ces mamans, je pense que elles ont surtout pensé en fait au côté indépendance et au côté possibilité d'un avenir différent en fait, de pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'elles n'ont pas pu forcément ou eu la possibilité de faire à leur époque. Et on parle, voilà, ma mère est née dans les années 50, donc c'est autant pour une femme musulmane marocaine à l'époque que pour toutes les femmes à l'époque dans le monde, c'était pas non plus ouvert à toutes les possibilités, hein. Il faut pas se leurrer.
Ouais. Aujourd'hui, elle se voit en quelque sorte en vous ? Et vos sœurs peut-être aussi ?
On a toutes pris de son caractère, donc oui. On a pris de sa force, alors même si ma mère est très, très entrepreneuse, Elle a fait, elle a construit des maisons. Elle a, voilà, là, c'est, je sais qu'aujourd'hui, les biens qu'on a, je sais que les, l'avenir qu'on a eu, on lui doit à elle, en grande partie, hein, mon père, bien entendu, mais en grande partie aussi à elle, parce que, bah, même si elle a pas eu de carrière professionnelle, elle a fait une carrière dans, dans la gestion familiale qui, aujourd'hui,
c'est une petite entreprise aussi.
C'est une grosse entreprise. Okay. Honnêtement, on est 7 frères et sœurs et avec un salaire à la maison, on a quand même là une belle vie. Et je pense qu'on lui doit elle énormément. Et aujourd'hui, voilà, à notre niveau, quand on voit aujourd'hui ce qu'on doit gérer avec notre salaire, les impôts, tout ce qui peut se passer, qui passe autour, et qu'en fin de mois, on n'est pas forcément milliardaire.
Ouais.
Je pense que voilà, on se dit c'est difficile aujourd'hui, ça devait être beaucoup plus difficile à l'époque aussi. Et au-delà du côté financier, il y avait la gestion et pouvoir, pouvoir justement éduquer, former ses enfants, et ça, c'est un job à part entière. Moi, je le vois aujourd'hui avec mes neveux et nièces, c'est un vrai, vrai travail. On le met de côté très souvent, mais... être maman ou être parent, en tout cas, c'est un sacré travail.
Alors, cette jeune génération, justement, dont vos nièces et neveux font partie, est-ce que c'est une génération qui reste autant accrochée au pays des ancêtres, le Maroc, comme votre génération ?
Je pense que c'est différent. En tout cas, pour parler de ce qui se passe en France aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup plus de revendications. Nous, on a quand même une douceur de vivre quand on était enfant. On a quand même une facilité entre guillemets à jongler entre notre culture, l'intégration, si on peut appeler ça, l'intégration dans le milieu français. C'était un peu plus doux à mon époque, en tout cas, et je pense qu'à l'époque de mes parents aussi. Aujourd'hui, il y a des complexes, beaucoup de gros complexes, et je le vois, mes neveux et nièces parlent beaucoup, beaucoup d'islam, parlent beaucoup de complexes, entre guillemets, d'intégration, ou du fait d'être arabe, ou du fait d'avoir des origines. Alors, au-delà du côté arabe, il y a aussi des personnes qui sont d'autres origines dans notre entourage, et on se rend compte que c'est plus difficile pour eux. Ils ont moins cette... j'ai l'impression qu'ils ont moins cette douceur de vivre à leur âge, alors qu'ils sont encore enfants, qu'on a pu l'avoir nous, et qui sont tout de suite en fait mis dans le côté politique, le côté vision en fait, le côté difficulté, le côté racisme qu'on peut avoir, ou discrimination. Et c'est plus difficile pour eux, je le vois, et du coup j'ai l'impression qu'ils comme c'est difficile, ils le revendiquent encore plus.
Ça, c'est à l'extérieur, mais à l'intérieur, justement, quand ils reviennent, justement, la famille, elle récupère ses idées comment, ce besoin de revendication, comment?
Bah, nous, on le voit, c'est pas pour nous, on le considère pas comme une revendication, on le comprend par rapport à ce qui se passe à l'extérieur avec eux et ce qu'ils nous racontent. Et par contre, à la maison, on sent qu'ils sont qu'ils ont leurs origines et qu'ils les revendiquent. Je prends un exemple qui est assez sympa, parce que c'est d'époque, et l'année dernière, on a vécu de belles choses avec l'équipe de foot marocaine. Et j'ai un neveu qui a 6 ans et qui est devenu accro au foot depuis l'année dernière. Et à chaque fois que j'ai un déplacement au Maroc, j'ai tout de suite la demande d'aller lui acheter des t-shirts de foot, d'aller lui acheter les complets jogging ensemble pour lui. Et il ne demandera pas, même s'il y a d'autres équipes qui suivent, mais il ne demandera pas des équipes de Barcelone ou de Madrid ou de Turin. Et je pense que c'est sympa, parce qu'en plus ils ont ce côté culinaire aussi qui est très proche d'eux. Ils ont ce lien avec la nourriture qu'on a. En ce moment, on est en pleine période de Ramadan, donc l'iftar pour eux c'est vital. Même si ils sont petits et qu'ils n'ont pas Ramadan, ils assistent quand même au iftar avec nous, ils participent à la préparation du iftar, et c'est intégré aussi en eux. Et je pense que c'est aussi une question d'éducation, aussi de transmission de ce qu'on peut leur offrir aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, avec les souvenirs qu'on a, avec ce qu'on a vécu de notre côté, et puis les grands-parents avec ce qu'ils ont vécu aussi. Et moi, les neveux et les nièces sont quasiment tout le temps chez mes parents au quotidien, à faire le mharcha avec ma mère, à aller chercher la menthe dans le jardin pour préparer la taille avec le grand-père, et aller casser le qalb sokor justement pour préparer la taille, parce qu'ils ont ce petit rituel, justement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans la culture, au quotidien avec eux.
Le qalb tskar, je crois que plus personne le casse au Maroc, hein, d'ailleurs.
Oui, je sais. Ouais, tout le monde me le dit. Quand je dois en ramener en vacances, mes amis au Maroc me font la remarque à chaque fois, mais c'est comme ça. Voilà.
C'est vrai?
Oui.
Alors, merci infiniment à Aïcha Zaoui d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à toi. À très vite.
À très, très vite. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.